Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois l'artiste de la semaine sur notre antenne, le Dijonnais Yves Jamais. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez un parcours assez atypique. Le métier d'artiste est arrivé assez tard dans votre vie. C'est quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps?
Oui, je pense qu'on l'a depuis toujours, mais après, ça dépend si on le révèle ou pas. Je ne l'ai pas révélé pendant longtemps, quoi, je pense. Ça a été, je pense que c'était une espèce de frustration comme ça que je baladais depuis longtemps. Ça m'a permis de me détendre, c'est bien.
Vous avez découvert Maxime Le Forestier à l'adolescence. Vous aviez quelle approche de la variétoche française de l'époque?
Bon, j'écoutais ce qui m'arrivait aux oreilles, surtout. Je faisais pas franchement de recherche, donc ben voilà, j'écoutais ce qui passait à la radio, à la télé. J'aurais 10 ans aujourd'hui, j'écouterais peut-être la Starac, quoi, en gros.
Et quelle place justement avait la musique à votre adolescence?
Ah ben moi elle l'était déjà même depuis l'enfance, hein, que ce soit des trucs d'une mièvrerie pas possible, là des choses un petit peu plus intéressantes comme Brassens ou Perret. Mais autrement, depuis que j'étais enfant, la chanson en tout cas semblait être quelque chose qui m'arrivait assez facilement, quoi. Je me souviens de textes quasiment entiers, de choses absolument inaudibles aujourd'hui.
Je parle de musique. Vous jouiez d'un instrument ou c'était uniquement les mots mis en musique qui vous passionnaient?
Bah, au début, c'est plutôt les mots mis en musique, quoi, qui m'ont. D'ailleurs, je n'ai jamais été vraiment un musicien. J'ai joué de la guitare pour faire ma main devant les filles, mais ça ne s'arrête pas à ça. Je n'avais pas d'autre intérêt au début. Et puis, voilà, pour porter des chansons, je trouvais ça vachement agréable. Mais de pouvoir le faire soi-même, je me suis limité à des choses assez rudimentaires.
Alors, c'est de cette période que naît votre premier groupe, La Dent de Sagesse, un combo très éphémère, puisqu'il durera le temps d'un concert.
Voilà, exactement,
Hein?
oui.
Vous n'êtes encore pas prêt pour la chanson, là?
Non, 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 on a essayé, et puis vite, on a tout remis dans notre culotte, et puis on est reparti, quoi, à faire ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire bosser pour vivre. À la base, c'était un peu ce que j'avais appris, donc je me suis pas spécialement lancé dedans en ce moment-là, non.
Ouais. Alors, dans votre biographie, il est question de ces années sombres de dérive avec pour seul horizon les zingues.
Ouais.
Comme on dit si bien, vous aviez un problème avec l'alcool?
Non, non, pas trop, enfin, je pense pas, j'étais un bon bringueur, je pense, et puis, bon, pour seul horizon, je trouve que c'est un bel horizon, les zingues, mais, on peut aimer, ne pas aimer, hein. Moi, j'ai préféré voyager comme ça, il y en a qui se baladent et qui se barrent, je préfère lire leur carte postale que de partir avec eux, mais je trouve que j'aimais bien ça aussi, hein. C'est pas non plus, je l'ai pas subi.
Ouais.
Donc j'aimais bien ça, je subissais plutôt ce qui chez moi n'avait pas psychologiquement, mais par contre ça a été un bon rendez-vous à chaque fois pour moi.
Ouais. Alors deux événements vont changer radicalement votre vie. Les naissances de votre fils et la rencontre avec un musicien et la création du trio de Vert en Vert.
Voilà, oui.
Donc il fallait que vous grandissiez dans votre tête pour vous convaincre que vous étiez fait pour une autre vie, loin de l'usine et plus proche de la scène.
Un peu ça, ouais, je pense. Ouais. Je pense que de toute façon, les chanteurs que j'aimais bien étaient, dirons-nous, assez matures en général. Donc voilà, je suppose qu'il fallait que je sente une certaine maturité monter pour m'attaquer éventuellement. Mais ça s'est fait parce qu'on a été surtout devant du public, puis que le public a vu, quoi, et que ça a été revenu plus nombreux à chaque fois. C'est aussi ça qui a motivé. Je pense que si j'avais juste chanté comme ça, je l'aurais fait peut-être, oui, effectivement, en dilettante, un peu sur le tard comme ça. C'est ce qui était d'ailleurs ce qui était compté à la base. C'était pas forcément de faire une carrière ou de enfin une carrière, c'est bien pour la Starac, ça. Mais voilà, c'était pas forcément de une fois que les choses se sont présentées, on s'est dit tiens, c'est sympa ça, cette histoire, et puis ça a continué, donc voilà.
Alors à 38 ans, vous quittez l'usine et puis vous mettez votre prime de licenciement dans votre projet musical. Hein, donc ça se
oui, pas que la mienne, il y a eu celle de mon bassiste aussi.
D'accord. Alors, sans ce licenciement, vous seriez encore ouvrier ou vous auriez fini par partir de ce milieu qui ne vous convenait plus?
Oh, au milieu qui ne me convenait pas, de toute façon, j'ai fait comme pas mal de gens, je savais m'y faire, j'ai appris ça en tout cas, j'ai appris à être, à être assez servile finalement au bout d'un moment. On sait l'être, hein, quand il faut bouffer, hein, de toute façon. Donc, qui ne me convenait pas, je pense que j'aurais pu le faire jusqu'à la fin de mes jours sans problème. Parce que je savais faire ça, je savais le faire. Maintenant, le fait d'avoir découvert autre chose, d'être parti un peu ailleurs, effectivement, ça serait assez difficile de faire le chemin inverse.
Ouais.
Mais si le cas échéant, je le ferai, quoi.
Ouais. Alors, le début de votre véritable carrière commence avec la sortie d'un premier album autoproduit de Vert en Vert.
Oui.
Hein, donc, pourquoi avoir changé de nom de scène de Vert en Vert? Vous rappelez trop votre période zingue?
Ben non, non,
non,
oui, ça a été un peu sous le conseil de Jean-François Delflour qui nous avait fait un peu la direction artistique à ce moment-là, qui me disait, tu sais, de Vert en Vert, c'est vachement connoté, vous allez passer pour une licence 4 du coin, enfin voilà. Et il se trouve qu'on séparait de François Cognier, l'artiste dont vous avez parlé tout à l'heure que j'ai rencontré, le musicien que j'ai rencontré, et que à l'origine c'était, on était les deux à l'origine de Devers en Vert, donc on a changé le nom et on a pris mon nom en fait parce que j'étais à l'origine de toutes les chansons. Ça s'est fait un peu banalement. Ouais.
Jamais est avant tout votre projet ou la notion de groupe est importante pour vous?
Bah moi c'est devenu mon projet parce qu'on a découvert au bout d'un moment que si j'écrivais pas de chansons on n'était pas là, donc c'est un peu mon projet mais que j'ai découvert à travers les autres, et le travail s'est fait un peu comme une troupe de théâtre. Au début chacun s'est occupé qui de la SACEM, l'autre de la communication, l'autre de chercher des dates, enfin voilà, tout le monde a aussi travaillé comme une troupe de théâtre, ce qui fait qu'on est toujours les mêmes aujourd'hui quoi.
Alors, Devers en Vert a tellement bien marché que Feu Créant Musique, un label, vous a signé.
Oui, oui.
Hein, je me rappelle. Tout s'est passé très vite. Vous vouliez rattraper rapidement le temps perdu.
Mm-hmm. Oui, et puis ça s'est pas passé comme on voulait, parce que signer avec une maison de 10, c'est pas aussi angélique que ça. Ouais. Donc voilà, on s'est trouvé confronté à un marché, à des problèmes d'une maison de disques qui suivait pas franchement, qui finalement s'est mis en dépôt de bilan et puis s'est mis en prêt en redressement judiciaire, et puis ils avaient tout quoi, alors donc on n'avait plus rien. Et donc là on a failli remonter les manches pour retourner bosser, et puis arriver Patrick Sébastien qui un jour m'a téléphoné, m'a dit: écoute, moi j'aime bien ce que tu fais, il paraît que t'es dans la merde, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et aujourd'hui, il a tout racheté et il est devenu mon producteur.
D'accord. Alors, quelle idée aviez-vous justement de l'animateur de France 2 avant ce coup de téléphone?
Oh ben moi, j'aimais plutôt bien. J'ai jamais eu cette espèce de racisme culturel qui veut qu'on trouve que certains font des choses, je sais pas, trop populistes, ou je sais pas quel mot est mis là-dessus en général. Non, non, moi, c'est quelqu'un que j'aimais plutôt bien. Bon, je peux pas dire que j'achetais ses disques, hein, il le sait. Mais j'aimais bien l'imitateur, j'aimais bien le présentateur. Je le trouvais quelqu'un que j'aimais bien comme ça, mais que sans plus, j'avais pas plus de... Et puis, j'ai eu après à découvrir, et puis depuis, c'est non seulement conforté, mais amplifié.
Mmh. Alors, il s'en est suivi une série de passages télévisés, ô combien important pour se faire connaître.
Oui.
Hein, pour autant, vous reconnaissiez-vous dans ce type de promo, dans des émissions, pas forcément à la hauteur de ce que la télé pourrait proposer?
Oh, moi, j'ai eu la chance déjà d'être avec Patrick, et donc d'avoir pu faire deux émissions chez lui en direct, avec un public, des musiciens, des retours, enfin dans des conditions dont on le fait souvent, donc ça était plutôt pas mal. Après, j'ai découvert aussi ce que c'était que le Sneak Playback, c'est-à-dire le playback le playback des musiciens, et moi je chante en direct, voilà, c'est plus souvent ça qu'on nous propose. Mmh. Et puis il y a les émissions où on vient juste pour causer, c'est presque dommage.
Ouais. Certains de vos fans vous ont reproché vos rapports avec Patrick Sébastien?
Non, il y a eu des discussions sur notre forum, de gens qui l'appréciaient ou pas d'ailleurs, et puis non, sont même plutôt assez contents qu'il y ait eu quelqu'un qui fasse quelque chose, et ça a prouvé que effectivement Patrick, dans ce qu'il dit, il le fait aussi quoi. Mmh.
Alors votre premier album Devers en Vert datait de 2001, le deuxième s'appelle Coquelicot et est sorti 5 ans plus tard.
Oui.
Hein, donc 15 nouvelles chansons, j'imagine que vous avez eu le temps de les tester sur scène avant de les enregistrer.
Oui, moi en général elles passent tous au moins une fois sur scène. J'aime bien voir avant, j'aime bien voir ce que la chanson fait, puis j'estime que ce sont les gens qui viennent nous voir sur scène qui sont les plus curieux, et donc autant les favoriser de ce côté-là, qu'ils aient les primeurs, quoi. Mmh.
L'album s'appelle Coquelicot, alors une fleur à la couleur qui évoque beaucoup de choses, hein, le sang, le vin, la révolution. C'est votre côté écorché vif que vous vouliez mettre en avant avec cette fleur?
Oui, il y a de ça, puis ça reste une fleur aussi, donc un certain petit bonheur. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Je trouvais que c'était assez caractéristique. Qui plus est, la chanson de Coquelicot, c'est la chanson la plus coquine de l'album. Donc voilà, c'était une façon de souligner un petit peu tout ça. C'était sympa.
Le Coquelicot donc porte un autre nom, le pavot. Il y a un rapport entre le vin et cette fleur qui sont tous les deux des drogues, sauf que le vin est en vente libre, fait des ravages plus que le pavot en tout cas. Vous seriez d'avis vous de légaliser la consommation des drogues douces?
Oh là là, oui, bien sûr, pour éviter toutes les conneries de gens qui se retrouvent en taule pour rien, quoi. Pour franchement pas grand chose à la base. Par contre, faut qu'il y ait un suivi là-dessus, faut que ce soit une légalisation suivie, bien sûr.
Ouais. Le parallèle avec l'alcool.
L'alcool, c'est pareil. Il y a apparemment, avec une légalisation à peu près suivie, on arrive encore à des ravages, mais à peu près maîtrisés, je pense, par rapport à une certaine époque. Après, c'est comme tout. Si on fait que ça, eh ben, on ruine sa vie. Mais dans n'importe quel truc dans lequel on peut se pencher comme ça, on a de fortes chances de ruiner sa vie. Donc, faut faire gaffe, c'est tout. Mais je veux pas faire le moralisateur du truc, quoi. C'est un peu délicat comme truc, parce que moi-même j'ai des gosses, je fais gaffe, de toute façon je bois pas avec mes enfants, je leur payerai pas un coup comme on faisait autrefois à 12 ans, leur faire boire la petite coupe de champagne ou des choses comme ça, ce genre de choses que je fais pas, quoi, voilà. Je trouve que chaque chose en son temps, et puis on doit apprendre, pareil, tout s'apprend en fait dans la vie, même. Ouais. Et si on exagère tout, on fait le con.
Ouais. Alors, sur la pochette de votre deuxième album, on vous voit avec une casquette. Hein, on connaissait le Titi parisien, on découvre le Titi dijonnais. C'est votre façon à vous de parogner vos origines?
Ben oui, ben c'est parce que j'ai pas du tout envie que d'être allié à une région si c'est pas la mienne, quitte à faire. Il n'y a pas normalement de fierté particulière à venir de Bourgogne ou de Dijon. Alors je le dis, moi, juste comme ça, mais pour dire, non, je suis pas de Paris. On m'a souvent affublé de cette expression Titi parisien. Je suis pas du tout parisien. Et c'est Gérard Morel, un autre chanteur, qui m'a appelé le moutard de Dijon. J'ai trouvé ça plus rigolo. Voilà.
Ouais. Alors, donc vous dites que vous êtes originaire de Dijon, vous lui dédiez d'ailleurs une chanson. C'est une ville à l'aspect très bourgeois, avec un ancien maire, Robert Pouget, qui n'a pas forcément donné une bonne image de la ville. Le portrait que vous faites de la capitale du duché de Bourgogne est différent de vous.
Oui, bah moi de toute façon je le connais plutôt par ses rues, pas forcément par un petit peu. Je m'intéresse un petit peu plus maintenant à son historique, mais c'est assez récent. Donc Poujade a fait ce qu'il avait à faire. Je veux dire, il est un homme de droite, il a fait une ville qui lui ressemble, avec les côtés pas mal et avec les côtés chiants. Il était temps que ça bouge un petit peu. François Ratzamen est arrivé depuis. Ça a changé aussi. Je sais pas si c'est une histoire de droite gauche. En tout cas, ça a changé. Ça change en plutôt sympa. Ça se détend un peu, et je trouve ça assez agréable.
La chanson Virzon est à la fois un hommage à Jacques Brel et à votre père que vous n'avez pas connu. C'est facile d'exprimer en chanson une émotion forte comme celle-là?
Non, j'avais commencé une première, une première chanson qui était assez pathos, assez mièvre. Et puis j'ai eu la chance de m'en rendre compte avant, surtout. Et puis j'ai lâché l'affaire pendant un moment, puis c'est revenu. Et là, les mots m'ont semblé plus précis, plus en phase avec ce que je ressentais, quoi. Mais c'est pas évident. Et après, il y a un moment où on se met tellement dans la chanson que l'impudeur fait moins peur, parce qu'on est plus sur la poésie que la poétique, et puis on se cache un peu derrière.
Les chansons sont toujours un petit peu autobiographiques, les vôtres le sont forcément?
Oui, en partie, et elles sont édulcorées aussi, parce que si je racontais que ma vie, je pense que ça, c'est chiant. Donc j'essaye de d'édulcorer tout ça pour en faire quand même des chansons. J'oublie pas que je fais des chansons. Si j'avais voulu faire une autobiographie, j'aurais écrit un bouquin, mais je suis pas capable.
Ouais. Alors, outre les concerts, quels sont vos projets pour la suite? Un nouvel album, des collaborations, des vacances?
Des collaborations certainement, parce qu'on rencontre beaucoup de gens sur la route, et voilà, il y a des gens avec qui je croise un petit peu des choses. Là, je suis en train de travailler sur un album d'Alain Leprest. Où on m'a demandé de venir chanter. Il y a un autre groupe qui s'appelle Zut, qui est un groupe pour enfants, oui, qui m'ont demandé de venir chanter une chanson avec eux. Enfin voilà, il y a plein de collaborations qui vont se faire, qui vont être sympas. Et puis je vais arrêter, je pense, 6 mois l'année prochaine pour préparer l'album, ouais, parce qu'il devrait sortir, je pense, en automne 2008.
Bien. Eh ben merci Yves Jamais d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Ben merci, sympa.
Votre deuxième album, donc Coquelicot, il est bien sûr toujours en vente, hein. Il n'y a pas de raison.
Oui, toujours. Le premier aussi, d'ailleurs, je pense, encore.
Donc, tous les deux sont produits par Vagram, hein.
Voilà, par Vagram.
Voilà. Alors, on vous retrouve sur Internet via votre site, hein, www.jamais.fr.
Oui.
Avec une superbe photo de vous, avec un large sourire en train de jongler avec votre guitare. C'est fini. Elle est belle, cette photo.
Oui, on l'a pris juste au bon moment, hein, sinon ça allait tomber.
Et vous serez en concert, ce qui est le plus important pour vous et pour nous, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône, demain, voilà, oui, le vendredi 17 mai 2007.
Voilà.
Eh ben Yves, bonne continuation.
Ben merci beaucoup.
Bon concert.
Merci pour la semaine que vous me consacrez, c'est sympa.
Eh ben, le plaisir est partagé. Et puis à bientôt sur Tropic FM.
À bientôt, merci.
Au revoir.